Michel Hautez, qui nous vient de Lille, sociologue, chercheur au CNRS, que vous connaissez certainement bien, puisqu'il a commis un ouvrage majeur, Les paradoxes du travail social, dans lequel il met bien en tension la question du contrôle social et de l'aide. Il est un des auteurs de la revue Esprit 98. Je vous renvoie à son article qui se trouve dans la clé USB. Vous avez les deux revues d'Esprit en version PDF. Vous avez également un florilège d'articles de quasi tous les intervenants, dont Michel Hautez. Donc l'insertion et une bifurcation du travail social, c'est 98. Et puis aujourd'hui, il va nous proposer, sous le titre « L'insertion à un moment maternel », une réactualisation de la question de l'insertion, entre autres, qui est un des grands paradigmes du travail social, alors en tous les cas pour la Suisse romande depuis 20 ans, maintenant, en France depuis quelques décennies maintenant, et qui occupe des marchés, qui occupe non seulement des travailleurs sociaux, mais des intervenants sociaux. Vous en avez parlé, Michel Hautez, dans votre article de 98. Au fond, cette conjugaison des métiers historiques du travail social avec les nouveaux métiers qui viennent conquérir, occuper des territoires connexes, superposés de la question de l'insertion. Merci encore de votre disponibilité. Et à vous.
Merci. Je crois que j'ai surtout parlé de la question des métiers, en fait, des métiers du social, ce qui va compléter ce que Michel nous a dit avant, puisqu'il a surtout parlé, finalement, de la construction des professions, des politiques et des professions. Alors, effectivement, le titre, il est venu quand Christophe m'a demandé un titre il y a déjà longtemps. Et que justement il faisait référence à la revue Esprit de 98, donc 98 pour les autochtones. Donc voilà, je vais quand même partir de cette question-là. Et donc c'est vrai que je parlerai des politiques d'insertion dans le contexte français. Peut-être qu'il y aura des corrections à faire par rapport à ce que vous vivez dans ce champ-là, hein, mais bon, ça sera en tout cas ma référence. Alors, bon, donc j'ai relu cet article, parce que 98, ça fait un petit moment, et je dirais, sans faire de fausse modestie, hein, je dirais que finalement, je ne changerai pas grand-chose au diagnostic, si on veut, aux hypothèses qui figurait déjà dans cet article. Je peux dire, puisque bon, on est entre nous ici, dans la confidence, que cet article n'avait pas plu ni à Joël Roman, ni à Jacques Donzon, parce qu'il était peut-être pas suffisamment critique, je pense, par rapport à ce qui était sous-entendu, notamment dans le prologue du numéro sur le travail social. Je crois que je dois à Robert Castel notamment le fait que l'article a quand même été publié, parce que je pense que les deux pilotes du numéro n'en étaient pas, ils n'étaient pas dans la note, quoi. Voilà. Bon, ils n'étaient pas dans la note. J'ai rarement été dans la note. Ça doit être... Bon. Donc là, parce que quelle était la thèse de l'article, c'est-à-dire qu'au fond, l'insertion, c'est toujours du travail social. Voilà, c'est toujours du travail social. C'est du travail social autrement, c'est du travail social qui est fondé, c'est important, sur d'autres types d'énoncés politiques, quand même, sur d'autres finalités sociales, hein, donc du travail social, mais avec d'autres moyens, c'est-à-dire finalement inspiré par les politiques néolibérales qui se déploient de plus en plus depuis notamment la fin des années 70, ce début des années 80, comme on le rappelait juste avant. Alors, parce qu'il y a toutes sortes de choses à l'insertion. Michel l'a dit plusieurs fois, il y a notamment tout un nouveau vocabulaire hein, qui va se développer. Enfin, bon, le couple, j'y reviendrai, mais le couple insertion-exclusion, hein, qui a donné après, qui a généré pour des raisons un petit peu bon, sémantiques, mais bon, peu importe, le terme de l'inclusion, hein, qui est un terme plutôt inventé par les institutions européennes, de manière à faire consensus, parce que le terme insertion, notamment dans la langue anglaise, il a, comment dire, il a un sens un peu pornographique. Et donc c'est vrai que c'était difficile à reprendre dans le vocabulaire des institutions européennes. Bon, je pense que la genèse du terme inclusion doit avoir un rapport avec cette histoire. Mais peu importe, on est dans le... Alors l'insertion, on peut dire, c'est la stratégie du social néolibéral, essentiellement. Hein, c'est-à-dire, c'est la lutte ou la... Enfin, la lutte, en tout cas, la contestation, finalement, de l'assistance républicaine. Hein, et je redis après Michel que l'assistance, c'est pas l'assistanat. L'assistance, c'est un projet politique. Hein, c'est porté, effectivement, par un projet républicain de citoyenneté, etc. Et effectivement, l'insertion, c'est un moment éternel parce que elle finit jamais, puisque la réalité résiste au discours. Ça fait combien de temps maintenant, je dirais 30 ans, un peu plus, qu'on fait de l'insertion, mais on n'a pas vu baisser, notamment en France, les chiffres du chômage, quoi, hein. Donc voilà, l'insertion, c'est une pratique qui est mise en œuvre non pas pour faire changer la réalité, mais pour, au contraire, pour la faire durer dans des conditions qui soient compatibles avec un ordre social. Bon, l'insertion, c'est aussi la critique de toute la logique de la dette sociale, hein, qui est à l'origine de ces institutions et de ces politiques dont parlait encore Michel. Non, pardon, faire référence beaucoup à ce que tu as dit, mais je pense que il y a un lien entre nos deux propos. Voilà, hein, c'est-à-dire quand la dette sociale est remplacée plutôt par la responsabilité de l'individu. Hein. L'insertion, c'est quand même la mise en mobilité des individus, hein, au nom d'une soi-disant critique de l'assistanat, de la mentalité d'assister, toute une littérature qui est ancienne d'ailleurs, hein, qui date au moins du XVIIIe siècle, mais enfin bon, voilà. L'insertion aussi, il faut le dire, ça a été d'une certaine façon un laboratoire ou un des laboratoires, notamment en France, pour la déconstruction du droit du travail. C'est-à-dire, ça a donné des tas d'idées sur les statuts précaires, sur toute une série de dispositifs effectivement, qui aboutissaient à une dégradation des formes de l'emploi. Bon. Et enfin, bon, l'insertion, c'est né dans le contexte donc, des politiques de lutte contre le chômage de masse, hein, mais en sachant que la stratégie n'est pas de réduire... Enfin, je ne dis pas que tout ça est volontaire. Hein, c'est... je reviendrai aussi un petit peu là-dessus, autant que... Mais l'objectif n'est pas tant de réduire la masse des chômeurs que de mettre de la mobilité dans la file d'attente. Hein, c'est-à-dire de faire en sorte que ça ne soit pas toujours les mêmes, hein, donc de recréer des priorités, notamment par rapport à certaines catégories, etc., parce qu'effectivement, 3 millions, 10%, 12% de chômeurs, c'est vivable, à condition que ça ne soit pas toujours les mêmes. Parce que si c'est toujours les mêmes, ça devient socialement très, très critique, quoi. Bon, voilà. Donc je dis ça, je reviendrai après, effectivement, parce que c'était le titre de l'article de 98, c'est une bifurcation dans les politiques sociales, hein, parce que bon, c'est contemporain effectivement de la genèse de l'intervention sociale, la question des nouveaux métiers, enfin, ce qui n'empêche pas, hein, je le dirais, parce que il faut toujours être nuancé quand on dit des choses comme celles que je viens de dire, que à partir de ces dispositifs, on peut inventer des choses tout à fait intéressantes, innovantes, respectueuses des publics, hein, bon, et qui créent de véritables effets, enfin, auprès des publics. Hein, je veux dire, je pense que les travailleurs sociaux sont suffisamment inventifs et agiles dans leur manière de procéder pour détourner d'une certaine façon quelquefois les intentions ou les présupposés qui, qui figure dans les politiques. Bon. Alors, voilà, je ne voudrais pas tant donc reprendre tout cet argumentaire qui est déjà dans l'article cité, parce que maintenant, je pense que ces choses-là sont connues. Hein. On a tout dit, je crois, sur les politiques de l'emploi, sur les effets d'aubaine, sur les effets de substitution, etc. Il y a des tas de travaux là-dessus qui ont été faits par des sociologues qui travaillent sur les questions de l'emploi. Mais bon, ce que je voudrais faire ce matin, c'est plutôt prendre un recul théorique pour faire quelques propositions. Et là, bon, je vais revenir plus à des choses basiques, quoi, hein. Une façon de parler du travail social, enfin, qui ne le trahisse pas trop, voilà. C'est peut-être quelque chose que j'essaye de faire avec plus ou moins de succès depuis un certain temps. Bon, c'est une ambition tout à fait modeste, hein. Mais enfin, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de donner, enfin, Michel Foucault employait cette expression, alors je la réemploie, mais avec plus de modestie, mais je vais lui emprunter un certain nombre de choses, de créer une boîte à outils, quoi. Voilà, quelque chose qui peut servir à penser, qui peut servir à poser autrement les problèmes, peut-être à commencer aussi à créer de la controverse, parce qu'effectivement, c'est ce qui manque dans le contexte actuel, comme on le disait tout à l'heure. Voilà, bon. Alors j'avais écrit un propos introductif que vous n'avez pas, vous avez retrouvé dans la clé USB, si j'ai bien compris, hein, pour exposer un petit peu les attendus de ce que je voulais dire. Je voudrais un petit peu, alors je ne vais pas le commenter, parce que comme vous ne l'avez pas lu, je ne vais pas le commenter, mais je voudrais redire un petit peu dans quel cadre je voudrais organiser le propos de ce matin. Hein. D'abord, je disais, on rappelait tout à l'heure aussi les titres des ouvrages de l'époque, enfin des années 70-80, et je commençais la note en disant que, en général, la sociologie n'était pas très bienveillante vis-à-vis du travail social. Mais bon, ça ne veut rien dire, c'est parce que si la sociologie prétend être une science, elle n'a pas à être ni bienveillante ni malveillante par rapport à son objet. Elle a à dire le vrai, c'est-à-dire bon, à produire des énoncés enfin, qui sont dans le registre du vrai et du faux. Hein, c'est-à-dire, bon, même si on sait, mais bon, ça c'est un autre débat, que tous ces partages entre le vrai et le faux, même quand on est dans le contexte de la science, hein, sont transitoires. C'est Bachelard, je crois, qui disait que la science c'était une lutte permanente contre l'erreur. Bon, ou Karl Popper, qui parlait que le seul critère de la science était la falsification des résultats précédents, etc., etc. Donc voilà, tout ça dit avec cette volonté. Mais je voulais notamment adoucir un peu la manière dont j'avais introduit les choses. Alors dans cette note, je me suis référé à deux auteurs, enfin deux autorités. Alors c'est pas pour donner de la consistance à mon propos, mais je citais Bourdieu et je citais également Foucault, et notamment cette phrase de Bourdieu que je vais vous lire quand même, parce que d'abord, sociologiquement, elle me semble d'une grande importance. Alors, pour une fois, c'est une phrase de Bourdieu qui est très simple et très courte. Et il dit ceci: on peut dégager de la pratique une règle sans que la pratique ait eu cette règle pour principe. Ça me semble fondamental, ça. C'est-à-dire, on peut sociologiquement donner des tas d'explications, etc., de ce que c'est que le travail social, mais c'est pas pour ça que le travail social ait suivi ces règles dans la manière dont il s'est constitué comme pratique sociale, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu sous cette... comment dire, avec cette prudence épistémologique, je voudrais continuer le propos, avec finalement une question qui peut paraître soit saugrenue, soit ambitieuse, selon le mail entre la garde, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la vérité dans le travail social? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité? Et c'est un peu l'envers d'ailleurs, l'envers ou l'autre face de la question que vous avez notée du colloque, c'est-à-dire à quoi sert encore et le travail social. Bon, c'est vrai que je vais surtout parler du « encore », entre parenthèses, quoi. Hein, c'est-à-dire le côté de la pratique. Et je vais d'ailleurs donner tout de suite la réponse hein, que moi je donne à cette question, c'est la même que concernant l'insertion. Il sert toujours à la même chose. Il sert toujours à la même chose, même si, encore une fois, c'est d'une autre façon. Il ne le fait pas de la même façon. Et encore une fois, ça ne repose pas sur les mêmes finalités, sur les mêmes énoncés politiques, sur les mêmes stratégies, etc. Et c'est un petit peu ça qu'il faut considérer. C'est finalement une approche où je vais essayer de mettre ensemble des considérations qui sont à la fois de nature scientifique, la question de la vérité, et aussi de nature politique, c'est-à-dire effectivement, du côté de la pratique et du faire. Alors, je vais encore faire une citation. Dans mes notes, je vais dire, si vous permettez, je vais faire une citation, mais comme vous n'avez pas le choix, je vais de toute façon la faire. Et c'est la suivante. Je dis toujours la vérité, pas toute, parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible, matériellement. Les mots, ils manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. Bon, cette phrase de Jacques Lacan, c'est un petit peu ce qui guide la problématique que j'essaye d'esquisser ce matin. Hein. C'est-à-dire que, au fond, il y a dans le travail social, mais c'est une, comment dire, c'est presque dans le langage journalistique, on dirait que c'est un marronnier, quoi. C'est-à-dire il y a un trou dans le langage quelque part, quoi. C'est-à-dire il y a de l'impossible à dire, on n'y arrive pas, ou alors on va dire qu'il y a de l'ineffable, qu'il y a des choses, vous voyez, toutes ces choses, bon, un peu curieuses, un peu, bon, voilà. Et je pense que la posture scientifique, je n'aime pas beaucoup ce mot-là, mais la posture en tout cas intellectuelle vis-à-vis de ce constat, c'est de regarder ce qu'il y a dedans, quoi. Regarder ce qu'il y a dans ce creux ou dans ce trou du langage pour dégager quelque chose qui serait de l'ordre. On parlait tout à l'heure d'un quelque chose qui serait de l'ordre d'un langage commun qui n'a jamais existé. Hein. Bon, un petit peu des choses comme ça. Alors ici d'ailleurs, je devrais faire référence, mais je ne le ferai pas, même si on a peut-être un peu plus de temps que prévu, mais c'est notamment en France le débat qui est relancé depuis quelques années sur la recherche dans le travail social, hein, une recherche qui serait propre au travail social, avec ses propres méthodes. Hein. Bon, certains défendent l'idée que le travail social est une science, encore. Enfin, il y a toujours eu des gens qui ont défendu ça, il y a toujours. Il y a une conférence de consensus hein, qui a donné lieu à un livre où plusieurs auteurs. Alors, il y a autour de ce débat à la fois une sorte de répétition, quoi, comme ça arrive. On répète des débats, bon, Michel les a bien connus dans les années 80, hein, avec Christian Bachmann, etc., quand il y avait justement cette volonté de créer une activité de recherche au sein des instituts de travail social, etc. Donc voilà, cette question vient, elle est comme un symptôme, cette question, c'est-à-dire un symptôme de cette difficulté, encore une fois, à produire des énoncés sur ce que c'est que le travail social. Alors voilà, après ces considérations plus générales, je vais en fait prendre deux voies. La première, c'est bon, qu'est-ce qui change dans le travail social, hein, depuis ce tournant ou cette bifurcation néolibérale, donc qui commence à la fin des années 70, et ensuite, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui résiste ou qu'est-ce qui peut résister à ces changements, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le social qui serait, comme dirait l'autre, indéménageable, c'est-à-dire quelque chose qui revient tout le temps, quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Voilà, c'est-à-dire ce que vous appelez d'ailleurs dans le petit argument qui accompagne le programme du colloque, les fondements ou les fondamentaux du travail social. De quoi s'agit-il ? C'est pas une question simple. Hein, c'est pas une question simple. Alors, le travail social, donc, à l'épreuve du tournant néolibéral des années 70, alors, ça se voit pas quand je parle, mais quand j'écris, je mets toujours un tiré entre néo et libéral. Parce que le libéralisme, tel qu'il transparaît à travers l'ensemble des pratiques managériales, gestionnaires, un certain nombre d'énoncés politiques sur la responsabilité des individus, le coût du social, etc. Bon. Tout ça, il y a une rupture, si vous voulez, entre ce discours-là, alors qu'il y a une caractéristique, effectivement, qu'on concernait tout à l'heure dans le débat qui a suivi l'intervention de Michel Chauvière. Comment dire, c'est comme si tout ça c'était inattaquable, quoi. Hein, le néolibéralisme n'a pas d'ennemis, quoi. Il n'a pas d'ennemis parce que au fond il n'a pas de doctrine. Il a des moyens, il a des techniques, il a des manières de faire. Hein, bon voilà, mais il n'y a pas de doctrine. Et donc il y a notamment un écart important entre la tradition libérale des philosophes libéraux, hein, notamment plutôt les anglo-saxons. Enfin, je pense à Locke, je pense à David Hume, je pense à John Stuart Mill. Il faudrait relire des pages de John Stuart Mill quand il explique que le libéralisme, c'est la liberté des individus. Donc, par exemple, je veux dire, si je décide de ne pas prendre soin de moi, d'avoir des comportements, etc., c'est mon affaire, je veux dire, on ne doit pas me l'interdire. On n'est pas dans ce contexte-là aujourd'hui. Hein, on veut prévenir, on veut guider les comportements, donner des conseils, etc. Hein, le vrai libéralisme philosophique, c'est pas ça, quoi. Et la caractéristique, justement, mais d'ailleurs, ça aussi, c'est cette forme de libéralisme qu'on retrouve chez les penseurs plus contemporains de libéralisme. Je pense à quelqu'un comme Friedrich von Hayek, par exemple, qui est un vrai penseur, à la fois économiste, mais aussi philosophe, je veux dire. Notamment dans son livre qui s'appelle Les voies de la servitude, qui développe une conception du libéralisme qui n'est pas ce qu'on trouve dans les pratiques dites néolibérales. Bon, voilà. Et d'ailleurs, la vraie question, qui reste une question philosophique sur laquelle moi j'ai une opinion, mais c'est-à-dire que est-ce qu'on peut dissocier libéralisme politique et libéralisme économique, ou est-ce qu'ils sont indissociables ? La tendance est à faire comme s'ils étaient indissociables, mais vous trouverez chez un certain nombre de penseurs, notamment des philosophes italiens, que, comme moi je pense comme ça, que les choses peuvent se distinguer. Alors, pourquoi le néolibéralisme n'est pas... Moi je pense qu'il n'y a pas continuité, finalement, entre ces penseurs libéraux du 18e, même du 19e siècle, et même les contemporains. Ce qui se pose en philosophe, voilà. Je ne parle pas des économistes néolibéraux, de la théorie néoclassique, du marché, etc. etc. Hein? Eh bien, la différence entre le néolibéralisme contemporain et cette tradition philosophique, c'est que le néolibéralisme du 21e siècle, il est pétri de normes. Hein? On a même, avec un collègue, inventé un mot pour parler de ça, on a parlé de la normativisation. C'est pas la normalisation au sens où vous pouvez l'employer Foucault, par exemple, mais je veux dire, pour rendre les individus libres, le néolibéralisme crée un univers de normes de comportement, d'obligations, de manières de faire, de techniques, etc., qui finalement contraignent, enferment, hein, et que cette soi-disant autonomie, finalement, elle a un prix considérable en matière de contraintes, finalement, sur les manières de faire, quoi. Hein? Voilà. Et bon, là, il y aurait toute une discussion encore sur laquelle je ne m'étendrai pas, qu'on pourra peut-être reprendre, mais la norme, c'est pas la règle, c'est pas la loi. La norme, c'est souple. La norme, ça se discute, ça se travaille. Hein, d'ailleurs, je cite souvent un rapport de 93 du Conseil d'État qui s'appelle « Le droit souple hein. ». C'est-à-dire, bon, la norme, finalement, ne crée pas d'obligation. La norme demande l'adhésion des individus. La norme demande une sorte de consentement. Il faut consentir. Hein. C'est-à-dire, c'est mieux de respecter la norme que de ne pas la respecter. C'est-à-dire, mais c'est exactement ce que disait Durkheim dans les années 1890, hein, quand il parlait de la contrainte sociale. Il disait qu'on n'a jamais autant le sentiment d'être libre que lorsque l'on respecte les normes. Hein, parce que c'est dès qu'on ne les respecte plus, effectivement. Bon. Voilà, donc on est sur quelque chose qui est de cet ordre-là. La norme doit être intériorisée. La norme, elle doit s'incarner, finalement, dans les individus. D'ailleurs, c'est toute la stratégie du néo-management, c'est-à-dire se gouverner soi-même. Hein. Et on n'a plus besoin de hiérarchie, on n'a plus besoin de... On prend la norme, on la prend sur soi, en quelque sorte. Hein, on vit dans la norme. Voilà. Donc tout le vocabulaire, enfin toutes les pratiques. Hein, Robert Castel dénonçait déjà ça déjà un peu dans le psychanalyse, mais dans un livre qu'il avait écrit un peu plus tard avec son épouse et avec Anne Lovell, qui s'appelait La société psychiatrique avancée, hein, où il montrait déjà cette inflation de pratiques comportementales, etc. C'est-à-dire ce qu'il appelait la thérapie pour les normaux, quoi. Le développement personnel, etc. Aujourd'hui, on pourrait citer le coaching, etc. Tout ça. Bon, voilà. C'est-à-dire comment être un individu normal, autonome, etc. Voilà. Avec toute une série de pratiques, on a parlé de l'évaluation, du benchmarking, etc., enfin, du néo-management, enfin, bon, bref, voilà. Donc, c'est ça la caractéristique de ce néolibéralisme, qui est en fait un faux libéralisme. En tout cas, philosophiquement, c'est un faux libéralisme. Et bien entendu, bon, c'est là qu'on revient à la question du travail social. D'abord, bon, il n'y a pas que le travail social qui est bien entendu impacté par cette forme de stratégie politique, hein, puisque ça touche l'ensemble du corps social, hein, et donc aussi par cette évolution des politiques sociales avec, bon, encore une fois, un nouveau vocabulaire, quoi. Insertion-exclusion, ça forme un couple, quoi. Hein. Bon, moi j'ai toujours été extrêmement... Alors, il y a tout un vocabulaire autour de... Alors, on a cité inclusion, on pourrait citer le lien social, par exemple. Enfin, toute une manière de se représenter les rapports sociaux qui crée finalement des catégories de pensée, presque des catégories de la pensée politique, quoi. On a eu, en 1998 aussi, une loi de lutte contre les exclusions. C'est pas rien, quoi. Comme authentification d'une manière de penser, de nommer le réel, enfin du discours, en fait, quoi. Hein, comment se crée un type de discours. Alors, quelques mots quand même sur la genèse des politiques d'insertion. Hein. Moi, je pense que le terme en politique, il fait son entrée avec Raymond Barre, hein, donc dans la deuxième partie du... Enfin, je parle donc de la situation en France, hein, dans la deuxième partie du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, quand il crée les stages d'insertion. Hein. Alors, il y avait deux dans les politiques, déjà, c'était le début de la lutte contre le chômage, le chômage des jeunes. Il y avait les stages de qualification, hein, parce que l'idée, c'était que les nouvelles technologies, allaient créer plein d'emplois, etc., et qu'il fallait préparer les jeunes, hein, que les métiers allaient changer, qu'il y aurait plein de nouveaux métiers, bon, voilà. Et il y avait les stages d'insertion pour ceux qui étaient vraiment en dessous, quoi, hein, et qui avaient déjà besoin de préparer finalement à entrer dans des stages de qualification. Il y a toute une stratégie. Et d'ailleurs, le rapport Schwartz en 81 a repris exactement la même rhétorique, quoi, hein, sur les stages, etc. Alors, ces politiques, elles vont en plus... elles vont se sédimenter, si on veut, dans la loi sur le RMI, en 1988, hein, qui va inventer le contrat d'insertion. Alors là, c'est intéressant aussi, J'avais notamment, j'avais fait un petit article d'ailleurs là-dessus, je crois, sur le débat parlementaire, quoi. Parce qu'il y avait eu avant le rapport Brzezinski, le président d'ATD, qui avait finalement inventé le modèle du RMI, quoi. Mais lui, il appelait ça dans son rapport la contrepartie. La contrepartie, c'est-à-dire pas d'allocation sans contrepartie de la part de la personne, mais la contrepartie au sens où c'était d'une certaine manière sauvegarder la dignité du bénéficiaire, quoi. Hein, voilà. Et il y a eu tout un débat au Parlement entre ceux qui voulaient de la contrepartie forte, hein, c'est-à-dire pas d'allocation sans engagement de la personne, et ceux qui l'ont porté finalement, qui étaient plutôt... je pense d'ailleurs que Jean-Michel Bellanger a joué un rôle entre la première présentation de la loi au gouvernement en juillet et le vote de la loi au 1er décembre, qui disons, à travers le contrat, avait inventé quand même quelque chose de plus souple. Hein, parce que le contrat d'insertion, bon, voilà. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est un vrai contrat? Je pense que les juristes là-dessus ont écrit pas mal, avec raison, etc. Bon, voilà. Et quelle était aussi la nature de ce contrat? Vous savez que je cite souvent cette anecdote, parce que en plus, elle prend aujourd'hui un relief un petit peu particulier. La première rédaction de l'article, c'est un des premiers articles, je ne me souviens plus lequel, disait que le contrat d'insertion devait veiller à l'insertion sociale et professionnelle des individus. Et il y a un sénateur à l'époque qui a introduit un amendement, et cet amendement a abouti à la rédaction, que le contrat d'insertion devait permettre l'insertion sociale ou professionnelle de la personne. C'est tout un débat. Et je le cite parce que le sénateur qui a fait introduire cet amendement, c'était Jean-Luc Mélenchon. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça prend un certain... voilà. Bon. Et ce qu'on retrouve finalement dans ces dispositifs, c'est tout à fait toute la logique des droits et devoirs, hein, qui est inscrite dans les textes, les déclarations des droits de l'homme, etc., hein, et qui a été reprise... c'est une formule, ça. C'est la formule républicaine. Bon, c'est-à-dire que le droit au secours, il est lié aussi, d'une certaine façon, à la contribution du citoyen à la société en général. Quoi. Hein, bon, voilà. Par contre, on retrouve dans la conception de l'insertion aussi ce que Henri Hatzfeld, qui a écrit un livre sur l'origine de la sécurité sociale, etc., appelé l'objection libérale, hein, et qu'on voit refleurir de plus en plus de nos jours, dans le débat politique, hein, notamment, c'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de secours sans contrepartie. C'est autre chose que la logique des droits et des devoirs. On n'est plus dans une logique citoyenne, on est dans une logique libérale, parce que toujours au nom de cette idée que... de cette idée libérale que assister les pauvres, c'est faire leur malheur. Hein, les économistes viennent à la rescousse pour expliquer qu'il y a des trappes à pauvreté, parce que comme ce sont des économistes et que ce sont des calculateurs, ils pensent que les gens font des calculs entre le montant du salaire minimum et le montant des allocations, de ce qu'ils auraient droit, pas droit, etc. Ce qui est complètement farfelu, parce que quand vous adressez une institution comme la CNAF, elle n'est même pas capable de faire ce genre de calcul. Ah, donc on fait comme si les bénéficiaires étaient des homo economicus absolument rationnels et que du coup ils préféraient rester aujourd'hui au RSA que de retrouver un travail. Il y a d'autres choses qui sont liées au travail, il n'y a pas que le revenu, il y a l'existence sociale, il y a la reconnaissance, il y a le rapport à soi, enfin, il y a toute une série de choses qui n'ont rien à voir avec ça. Bien, bon. Ce qui a contribué aussi à la montée des politiques d'insertion, c'est, comment dire, des stratégies. Alors, il y a eu la décentralisation, encore que là, on peut discuter. C'est vrai que la décentralisation, est-ce que c'est ce qui a été, d'une certaine façon, la cause d'une certaine dégradation de cette conception de l'action sociale, etc., de l'État protecteur, ou est-ce qu'elle a été un moyen, bon, de, finalement, de décharger l'État d'un certain nombre de tâches subalternes, en quelque sorte, hein, et de les confier à des collectivités locales qui ont fait ce qu'elles ont pu avec ça. Bon. Mais il y a eu aussi, surtout, l'époque de ce qu'on appelait les politiques transversales, hein, notamment les politiques de la ville, par exemple, qui ont donné naissance à un autre type de concept qui est un petit peu le pendant de l'insertion, c'est le développement social urbain. Hein, c'est-à-dire que cette idée qu'il fallait travailler sur la ville, sur les rapports sociaux pour recréer, comme on disait à l'époque, du lien social, etc. Bon, c'est vrai que, encore une fois, 30 ans, bientôt 40 ans après, on ne peut pas dire, quand on regarde l'état des banlieues ou des quartiers défavorisés, que ces politiques ont eu un succès remarquable. Bon, hein. En tout cas, elles ont créé une espèce de discours volontariste, hein, d'un plan à l'autre, le plan Marshall pour les banlieues, le plan Borloo sur la rénovation de la ville, enfin toute une série de choses comme ça. Hein. Bon, il y a eu les rapports sur la délinquance, hein, le rapport Prémaison, j'ai cité le rapport Schwartz, la naissance des missions locales, toutes ces institutions, effectivement. Local, on est beaucoup dans le local, quoi. Hein. C'est-à-dire que le local va être le lieu, le territorial va devenir le lieu privilégié du social. Et donc, là-dessus s'est développée toute la saga des nouveaux métiers. Hein. Donc, vous avez parlé de... Certains ont cité tout à l'heure le livre « Les mutations du travail social ». C'est-à-dire cette idée qui apparaît dans les années, fin des années 80, début des années 90, d'une certaine façon, que les métiers dits traditionnels. Alors, on a inventé plusieurs mots. Hein. Je dirais quelques mots quand même de cette... puisqu'on a un petit peu de temps de cette opération de recherche qui avait été pilotée par la MIR et par Jean-Noël Chopard, qui avait mobilisé toutes les institutions du social de l'époque, hein, la direction de l'action sociale, la délégation interministérielle à la ville, la CNAF, il y avait, je pense, même Jeunesse et Sport dans les 29. pour valider cette idée que finalement les métiers dits canoniques, hein, les travailleurs sociaux canoniques, hein, les professions constituées, donc les éducateurs, les hommes sociaux, etc., se trouvaient d'une certaine façon démonétisés par rapport aux nouveaux enjeux que tâchaient d'appréhender les nouvelles politiques sociales, et que donc, dans la foulée de ces politiques, était née toute une série de métiers, dits des métiers d'intervention sociale. Alors les dénominations, on en a recueilli à l'appel, hein, les femmes relais, les grands frères, les veilleurs de nuit, les machins, les trucs. Et d'ailleurs, ces métiers aujourd'hui cherchent à se constituer comme des professions reconnues, quoi. Hein. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est comme elles n'arrivent pas à cette reconnaissance par les voix qui étaient, je dirais, les voix qu'ont emprunté les autres travailleurs sociaux, elles sont en train, alors je ne sais pas si elles ont abouti, mais j'ai participé avec eux à un débat il y a quelques mois, elles cherchent à se faire reconnaître à travers une norme AFNOR. Incroyable, quoi. Le métier de médiateur, hein, validé par une norme, hein, négociée entre des employeurs, bon, absolument. Bon. Donc, voilà. Et l'enjeu, hein, l'enjeu qui était vraiment patent dans les débats, il y avait plusieurs équipes de chercheurs, je pense qu'on était 7 ou 8 équipes, hein, c'était finalement de faire reconnaître cette idée que les métiers du social étaient des métiers de service comme les autres. Voilà. C'est-à-dire entre l'agent de la poste, chauffeur d'autobus, l'agent EDF, le travailleur social, on fait tous le même métier. D'ailleurs, on aide les pauvres à s'en sortir, etc. Alors, il y a bien des secteurs un peu particuliers, comme c'est vrai le handicap, la maladie mentale, etc. Bon, mais grosso modo, par rapport à la question sociale, les travailleurs sociaux, c'est un métier de service, ça rend des services à des gens qui sont dans le besoin. Voilà. Il existe des prestations, et puis là, on délivre des prestations. À chaque problème, il y a une réponse. Et, bon. c'était un petit peu l'idée sous-jacente. Et donc, ça a été une certaine... Alors, le débat, la controverse se menait un petit peu... et on n'est jamais rentré sur le fond, quoi. Mais c'est finalement, je pense que Jean-Noël Chopard a joué un grand rôle là-dedans, c'est finalement cette idée qu'on n'était plus dans une mutation des professions, finalement, c'est-à-dire des modes de professionnalisation, alors que pour ce qui concerne les métiers, quel que soit le métier, même si après il y a des réorganisations entre les... Enfin, ce que moi j'ai appelé... j'avais appelé ça, bon, c'était maladroit sans doute, j'avais appelé ça les petits métiers du social. Claude Dubard n'avait pas aimé parce qu'il avait trouvé que c'était injurieux. Mais c'était pas du tout. C'était les métiers vraiment qui sont au front, quoi. C'est-à-dire ceux qui sont au contact des populations, c'est-à-dire tout ce qui fait finalement le cœur du métier du social. Alors que c'est vrai, dans les nouvelles organisations, les travailleurs sociaux dits traditionnels, canoniques, historiques, enfin, etc., étaient plutôt dans des positions de back-office, finalement, davantage, moins au contact. Et c'est vrai que moi, j'avais fait pas mal d'études de poste, on voyait quand même que, pardon, dans ces métiers-là, la partie du temps directement au contact du public était finalement... assez limité, quoi. Je veux dire, l'intervieweur social, il passe grosso modo un tiers du temps au contact des gens. Voilà, je dis ça à la louche, mais c'est un peu ce qu'on trouvait. Un tiers du temps au contact des gens, un tiers du temps à faire du travail bureaucratique, etc., etc. Et puis un tiers du temps à discuter, quoi. Ce qu'on appelle le travail social informel, enfin, le travail informel en général, à s'ajuster, etc. Se coordonner, tout ça. Oui, alors voilà, donc je fais un petit intermède là-dessus. L'idée que moi j'en ai retirée, je pense que c'est celle que je développe dans ma contribution, c'est l'idée que tous ces gens-là font le même métier, mais ils ne le font pas avec les mêmes protections professionnelles, garanties professionnelles, etc., institutionnel aussi, reconnaissance, bon, voilà, et que le métier fondamental, c'est le métier de la relation, voilà, c'est pour ça que j'avais intitulé mon rapport intermédiaire « Les aventures fabuleuses du voyage immobile ». Tout change, mais en fait, on a l'impression qu'on dit tout change, mais en fait, les choses restent... d'une certaine façon, immobile. En tout cas, pour ce qui concerne les fondamentaux du travail, c'est-à-dire la relation à autrui, la manière dont on prend en charge finalement la souffrance ou la misère d'autrui, etc. Tout ça, ça fait partie des fondamentaux effectivement du travail social. Par contre, effectivement, ce qui change, et ça, c'est bien entendu visible, parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas le travail social, c'est les professions. Et aujourd'hui encore, on discute des professions, de la réforme des professions, de la réforme des diplômes, etc. Parce que, effectivement, et je pense que là, l'enjeu, si vous voulez, de ces discussions, c'est à quel point ou à quel moment la transformation des professions, des cadres professionnels, va impacter l'exercice des métiers. Ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est la seule qui est importante. Parce qu'on peut triturer les diplômes, les formations comme on veut, c'est-à-dire à partir de quel moment tous les dispositifs qu'on va créer, qu'on va mettre en place, tous les modes de formation, les modes d'exercice du métier, à quel moment ça va changer la nature même du métier de travailleur social. Voilà, donc pour le premier point, donc, justement, la question sur laquelle on arrive, c'est-à-dire, c'est la question la plus difficile. 5 minutes, ça va être dur, mais je veux le faire en 10.
Ça roule.
C'est quoi, finalement, le métier du social, Alors, bon, moi, j'ai une formule que j'utilise depuis quelque temps. Je dis que le travail social est une politique des subjectivités. Mais je voudrais m'expliquer là-dessus. Bon, je pense que c'est bon. Quand je dis subjectivité, j'entends pas la question métaphysique du sujet, etc. Comme chez certains sociologues qui volent autour du sujet comme la panacée qui allait résoudre tous nos problèmes, etc. Pour moi, c'est pas ça la subjectivité. La subjectivité, c'est pas l'intériorité, c'est pas le fort intérieur. La subjectivité, c'est beaucoup plus complexe que ça. La subjectivité, c'est d'abord un rapport à soi. Hein? C'est-à-dire comment on se situe. Mais c'est effectivement, là pour le coup, c'est l'intériorité, la singularité, etc. Hein? Ce qui construit, d'une certaine façon, l'intimité. Mais la subjectivité, c'est aussi un rapport à autrui. C'est-à-dire comment on est en rapport avec autrui, comment autrui est considéré, et quelle est la relation qu'on a avec autrui, comment on considère autrui. Et la subjectivité, c'est aussi un rapport à autrui. On dit, bon, là, je suis un peu la lecture, en tout cas que moi je fais de ce que Foucault a pu raconter là-dessus, c'est-à-dire la subjectivité, c'est une construction historique, politique, culturelle, anthropologique, etc. Et c'est ça qui est en question, notamment dans le travail social. Hein, c'est-à-dire que dans cette construction des subjectivités, hein, dans cette complexité-là, le travail social joue un rôle. Bien sûr, il n'est pas le seul à jouer un rôle, mais il le joue à un endroit particulier, c'est-à-dire il le joue là où les subjectivités sont en... Comment dire, enfin, attention au mot qu'on emploie, là, mais... sont pas au point, quoi. Voilà. Dans le rapport à soi, la folie, l'autisme, etc. Dans le rapport à autrui, la délinquance, la déviance, etc. Tout ce qu'on veut. Et dans le rapport au monde aussi, hein, qu'on peut avoir, effectivement, la manière dont... Bon, voilà. Et donc, je pense que ça, c'est la caractéristique. Quelle que soit la position professionnelle qu'on regarde, hein, que ce soit l'assistante sociale, l'animateur, même, etc., la conseillère en économie sociale et familiale, l'éducateur, bien entendu, ou même toute cette myriade de métiers de médiation qui sont apparus dans la suite des nouvelles politiques néolibérales, eh bien, c'est toujours cette question du rapport à autrui qui est mise en avant, c'est-à-dire soit parce que autrui, il est comme tout le monde, victime des aléas et des misères de la condition humaine, le handicap, le malheur, et il est aussi victime des injustices sociales. Hein, voilà. Donc c'est les deux aspects sur lesquels le travailleur social, c'est sur cette ligne-là que le travailleur social est en quelque sorte convoqué, mobilisé, pour pas forcément répondre à ces questions-là, hein, mais en tout cas pour être présent sur cette frontière, cette double frontière entre les vicissitudes de la condition humaine et les conséquences des injustices sociales. Voilà, je le dis comme ça. Et c'est vrai que certains, je pensais par exemple à Jacquillon, on dit que les travailleurs sociaux étaient des clercs, et je pense qu'ils ont raison, mais ce sont des clercs laïcs, républicains. Et ils sont là dans une logique de solidarité, finalement, de reconnaissance, de citoyenneté, de commune appartenance. On pourrait même dire de fraternité, puisque, après tout, c'est aussi dans la conception de ces politiques. Et ce métier, quel est l'outil principal de ce métier? Eh bien, l'outil principal de ce métier, c'est la relation, c'est le langage, ou c'est aussi, on pourrait dire autrement, c'est la clinique. Hein. Et c'est là que, justement, je vais presque terminer là-dessus, que pourquoi les métiers du social ne sont pas des métiers de service comme les autres? Parce que dans les autres services, qui sont des services marchands ou des services publics, je sais pas, comme les transports, la fourniture d'énergie, etc., la relation dans ces métiers-là, Prenons la banque, par exemple. La qualité de la relation, elle est au service des prestations qui sont faites par l'institution. Et, le banquier est gentil, le banquier veut votre bonheur, le banquier va vous aider, etc. Mais le banquier, il a des tonnes. Il a des tas de business à faire sur... voilà. Et donc, la relation est au service des services rendus, hein, des services marchands. Hein. Tandis que dans le social, c'est le contraire. C'est-à-dire, les services que rend le travailleur social, les prestations qu'il fournit, prestations d'aide, prestations monétaires, ce qu'on veut, prestations d'accompagnement, de conseil, de suivi, enfin, eh bien... Tous ces services sont au service de la relation. Parce que l'essentiel, effectivement, du métier, le cœur du métier, c'est la relation avec les individus, effectivement, qui sont en difficulté. Le travail social, c'est pas le service des biens. Voilà, c'est pas un commerce comme un autre. Quoi qu'on pourrait reprendre le terme de commerce, etc. Alors, justement, toute la stratégie du néolibéralisme, c'est de faire en sorte que le service social devienne un service comme un autre. Voilà. Avec ses prestations, avec ses techniques. Bien, écoutez, moi je pense que je vais... Parce que, au fond, dans tout ça, on le rappelle, bon, là aussi c'est un thème que j'aurais pu développer, mais c'est toute la conception de l'individu néolibéral. Autonome, ce qu'on trouve chez Rawls par exemple, ou ce qu'on trouve chez les économistes, c'est plus caricatural avec l'individu rationnel qui calcule, etc. C'est intéressant. Eh bien, je pense que la réalité, je fais souvent référence à un philosophe américain qui s'appelle Michael Sandel, qui a été un des critiques les plus pertinents de John Rawls. Encore que moi, si je veux être objectif, je dirais que chez John Rawls, il y a des choses très intéressantes, mais ce ne sont jamais celles-là dont on parle. Et il disait cette phrase que je cite souvent, enfin, si vous voulez même, ça sera ma phrase de conclusion, il disait « Être libre, c'est choisir ses liens ». Voilà.